RFI, 9h à Paris, 7h en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Martin Guèze. Pas de répit à Gaza où l'Aïd se prépare sans joie.
La plus grande fête du calendrier musulman, célébrée dans tout le monde arabe, mais dans l'enclave, en proie à la famine et encore massivement bombardée ces dernières heures. Les casseroles sont vides et personne ne peut se permettre de sacrifier un mouton. Reportage à suivre à Gaza. Benjamin Netanyahu remercie Donald Trump après les sanctions annoncées par Washington contre 4 juges de la CPI, la Cour pénale internationale, qui poursuit notamment le premier ministre israélien et son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Washington qui s'en prend également aux ressortissants de 12 pays interdits dès lundi d'entrer aux États-Unis. La Corne de l'Afrique est particulièrement visée. Et puis notre dossier nous mènera en Syrie où d'anciens djihadistes étrangers sont désormais intégrés dans l'armée régulière du nouveau régime. Et puis enfin, pas de miracle pour les Bleus en Ligue des Nations. Les coéquipiers de Kylian Mbappé partaient de trop loin et subissent encore une fois la loi de Lamine Yamal et de l'Espagne en demi-finale.
Le monde musulman est en fête, c'est aujourd'hui l'Aïd.
Aussi appelé la Tabaski, moment de sacrifice, de solidarité, de partage, mais qui a une saveur bien particulière à Gaza. L'enclave palestinienne passe un nouvel Aïd sous les bombes. Hier, 37 Palestiniens ont été tués lors de tirs israéliens. Gaza où la famine menace, l'ensemble de la population est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Après plus de 2 mois de blocus total, la Fondation humanitaire de Gaza, organisation soutenue par Israël et les États-Unis, n'a pu distribuer que quelques repas dans un chaos absolu et a suspendu ses distributions en début de semaine. Reportage à Gaza, Rami El-Merari et Sami Boukhalifa.
En cette veille de l'Aïd al-Adha, plus importante fête musulmane, sous sa tente de déplacés, Om Mohamed tient à montrer ses casseroles vides. Rien à cuisiner, rien à manger, raconte la veuve, plusieurs fois grand-mère, en colère contre le monde arabe et le monde musulman.
Mes petits-enfants pleurent de faim et je n'ai rien à leur donner. Je n'attends rien des Israéliens, ni eau, ni nourriture. Je veux juste qu'ils nous fichent la paix. Mais les dirigeants arabes, je ne leur pardonnerai jamais. Qu'ils m'entendent, moi, la femme palestinienne. Vous faites semblant de prier, mais ça ne sert à rien lorsque Gaza a faim. Vous faites semblant d'être de bons musulmans, mais ça ne sert à rien lorsque Gaza a soif et vit sous l'oppression.
L'Aïd al-Adha est la fête du sacrifice, mais dans un territoire exsangue, exposé à la famine, sacrifier un agneau dont le prix dépasse les 5 000 $, personne n'y pense, raconte Fares, père de famille.
J'aurais bien aimé accomplir une véritable prière de l'Aïd, mais quelle tristesse, même ça n'est plus possible. On n'a plus de mosquées, toutes les mosquées de Gaza ont été détruites, on va prier dehors.
Rinat, petite orpheline, rêve quant à elle d'une robe pour l'Aïd.
Lorsque papa était en vie, j'avais tout ce que je voulais. Et l'Aïd avec papa, c'était la plus belle fête.
Son père et toute sa famille paternelle ont été tués cette année dans une frappe israélienne. Rami El-Merari, Gaza, Sami Bourkifa, Jérusalem. RFI.
Israël coupable de commettre un génocide prémédité à Gaza, selon les mots du président brésilien Lula, déclaration faite hier en France. Et ce matin à Paris, l'État hébreu est visé par une plainte pour génocide devant le tribunal judiciaire. Plainte déposée par une grand-mère qui accuse les autorités israéliennes d'être responsables de la mort de ses 2 petits-enfants français à Gaza en 2023. Gaza dévastée après 20 mois de bombardements et hier le Hamas s'est dit prêt à de nouvelles discussions sérieuses en vue d'une trêve.
Israël qui frappe aussi au Liban.
L'État hébreu a bombardé le sud de Beyrouth, la capitale libanaise, l'armée israélienne qui assure avoir visé des cibles de l'unité aérienne du Hezbollah. Il s'agit des 4e frappes israéliennes depuis l'entrée en vigueur de la trêve. Une violation flagrante du cessez-le-feu, a dénoncé le président libanais Joseph Aoun.
La Russie, elle, bombarde massivement l'Ukraine et frappe au cœur de la capitale.
4 personnes sont mortes ce matin lors de frappes russes sur la capitale Kiev. Et ce alors que Vladimir Poutine a assuré vouloir riposter fermement et avec force à l'attaque ukrainienne de la semaine passée sur plusieurs aérodromes russes. La guerre en Ukraine, dont il a aussi été question hier à la Maison Blanche, le chancelier allemand Friedrich Merz a demandé à Donald Trump d'accentuer la pression sur Moscou.
Et Washington qui restreint drastiquement l'accès au territoire américain.
On reparlera dans un instant du travel ban, mesure qui vise à interdire aux ressortissants de 12 pays de fouler le sol américain. Mais elles aussi sont désormais interdites d'entrer aux États-Unis puisque Washington s'en prend cette fois à 4 magistrates de la Cour pénale internationale. La Maison Blanche gèle aussi leurs avoirs détenus sur le sol américain, des mesures qui visent habituellement des criminels ou des dirigeants politiques. Mais les États-Unis s'opposent notamment au mandat d'arrêt émis en novembre par la CPI contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, tous deux poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Correspondance à La Haye de Stéphanie Maupas.
Quatre juges sont visés par ces nouvelles sanctions américaines, les juges béninoises et slovènes, Rena Lapini et Betty Oler, toutes deux siègent dans la chambre préliminaire qui a émis les mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant en novembre dernier. Le juge français Nicolas Guillou, qui a pourtant participé à la délivrance de ces mandats d'arrêt, n'est pas épinglé par l'administration Trump, du moins pas pour l'instant. Le Trésor américain délivre ces sanctions au compte-gouttes comme pour mieux déstabiliser la CPI. Deux autres juges, Carmen Ibáñez Carranza du Pérou et l'Ougandaise Solomi Bossa, sont aussi visés cette fois pour l'enquête de la Cour sur les crimes des forces américaines en Afghanistan. Cette affaire-là est pour l'instant au sommeil, car en prenant ses fonctions en 2021, Karim Khan avait annoncé qu'elle n'était pas dans ses priorités. La décision américaine accuse la Cour de politisation et d'abus de pouvoir. Dans un communiqué, la CPI a répondu et a dénoncé une tentative manifeste de porter atteinte à l'indépendance d'une institution, à laquelle adhèrent 125 pays, mais ni Israël, ni les États-Unis. Stéphanie Mopala et RFI.
Et on en vient désormais au fameux travel ban qui entre en vigueur ce lundi.
Motivé par l'attaque dans le Colorado, un Égyptien de 45 ans accusé de s'en être pris dimanche à des manifestants réclamant la libération des otages à Gaza. L'assaillant s'est vu notifié de 118 chefs d'inculpation et Donald Trump a utilisé cette affaire pour justifier l'interdiction aux ressortissants de 12 pays d'entrer sur le territoire américain. 7 autres pays sont frappés de restrictions sur la délivrance de visas et la Corne de l'Afrique est particulièrement visée. La Somalie, l'Érythrée et le Soudan sont sur la liste du travel ban. La Somalie qui figurait déjà, souvenez-vous, sur le Muslim ban, le décret anti-musulman pris par Donald Trump en 2017 lors de son premier mandat. Gaël Alex.
Cette politique raciste n'assurera pas notre sécurité. Elle séparera des familles et mettra des vies en danger. S'en porte sur X Ilhan Omar, député du Minnesota et premier élu d'origine somalienne au Congrès américain. Dans un communiqué publié hier, la Commission de l'Union africaine se dit préoccupée par l'impact négatif de telles mesures sur les relations interpersonnelles, les échanges éducatifs, commerciaux et plus largement les relations diplomatiques. Cette décision motivée par la politique intérieure affecte peu les citoyens somaliens, tempère le docteur Ali Saïd Faki, député somalien et ancien ambassadeur auprès de l'Union européenne. Très peu réussissaient à obtenir des visas. Nous n'avons pas de partenariat commercial, universitaire ou culturel avec les États-Unis, poursuit le diplomate, qui estime que le plus important reste le soutien des États-Unis en termes de lutte contre le terrorisme. De ce point de vue, Washington ne flanche pas. Les États-Unis ont procédé à une nouvelle frappe de drone dimanche au sud de Bosaso dans le Puntland. C'est la 34e depuis le début de l'année. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Et Julien, on referme notre chapitre américain. Le budget est examiné actuellement au Sénat, budget particulièrement critiqué par Elon Musk, le torchon brûle entre l'homme le plus riche du monde et Donald Trump. Le président américain s'est dit très déçu des récentes critiques du patron de Tesla, qui parle lui de l'ingratitude du chef d'État républicain. Un clash qui a fait perdre très gros à son entreprise Tesla, dont l'action en bourse a chuté de 14%.
RFI 9h08, ici à Paris, c'est l'heure de notre dossier.
Et ce matin, on se penche sur ces djihadistes étrangers en Syrie, des combattants américains, belges, chinois ou français, qui rejoignent désormais l'armée régulière syrienne du nouveau président Ahmed al-Shara. On en parle ce matin avec Pierre-Olivier. Bonjour Pierre.
Bonjour.
On parle d'hommes qui étaient initialement partis en Syrie pour prendre les armes contre le régime de Bachar al-Assad.
Oui, plusieurs milliers d'hommes réunis en factions djihadistes, salafistes, parfois considérés comme terroristes par leur pays d'origine. Ils avaient prêté main forte ces dernières années à Ahmed al-Shara et à son groupe rebelle Hayat Tahrir al-Sham. Et aujourd'hui, il pourrait intégrer l'armée régulière, la division 84 plus précisément. Pour faire simple, ce serait un peu l'équivalent en France de la Légion étrangère.
Mais Pierre, la position des Occidentaux jusqu'ici était plutôt de dissoudre ces groupes djihadistes.
Et oui, le désarmement de ces factions était même une condition sine qua non des États-Unis pour lever les sanctions contre Damas. Mais dissoudre ces groupes, c'était aussi prendre le risque de voir les djihadistes s'évanouir dans la nature et peut-être préparer de futurs attentats, parfois même contre leur pays d'origine.
Et ça, c'est la raison pour laquelle Washington a changé son fusil d'épaule.
Oui, en début de semaine, l'envoyé spécial américain pour la Syrie a donné son feu vert pour que Damas intègre à ses troupes ses anciens combattants djihadistes. Écoutez, Cédric Labrousse, chercheur et spécialiste des groupes armés en Syrie.
Là où plusieurs pays demandaient aux djihadistes étrangers de quitter la Syrie, ils comprennent que leur intérêt est peut-être davantage de collaborer avec l'actuel gouvernement syrien, de voir une intégration de ces combattants étrangers qui sont actuellement présents en Syrie au sein de l'effectif de l'armée syrienne, de rester sous le radar, du moins sous l'œil des nouvelles autorités syriennes. C'est beaucoup plus simple à gérer quand on y pense, et en effet, pour les chancelleries occidentales et internationales globalement, il y a l'intérêt de maintenir ces combattants Secure Zone.
Et Pierre, ce changement de stratégie n'est pas pour déplaire au nouveau président syrien.
Et cela retire même une épine du pied d'Ahmed al-Shara. D'abord, c'est un moyen de remercier les combattants qui se sont battus à ses côtés. Et puis, il gonfle par ailleurs, avec des guerriers aguerris, les effectifs de son armée. Et surtout, c'est une manne providentielle pour lutter contre ceux qui pourraient déstabiliser Ahmed al-Shara, comme l'État islamique, toujours présent en Syrie. Et puis, c'est aussi une manière pour les Occidentaux d'empêcher tout regain d'activité de ce groupe qu'ils considèrent comme terroriste, Cédric Labrousse.
Il y a quelques semaines, l'État islamique a appelé les combattants djihadistes déçus d'Ahmed al-Shara à les rejoindre, et notamment les combattants étrangers. Et donc, il y a aussi l'intérêt des chancelleries internationales à voir davantage la situation se régulariser pour ces combattants étrangers. Donc on stabilise ces hommes plutôt que de les voir potentiellement rejoindre d'autres forces, l'État islamique par exemple.
Alors la population syrienne, elle, s'inquiète à l'idée de voir ces milliers de djihadistes intégrer les rangs de l'armée régulière, mais leur pouvoir de nuisance au sein de l'armée serait assez limité selon les spécialistes. Quoi qu'il en soit, cette intégration des djihadistes étrangers dans l'armée syrienne avec la bénédiction de Washington marque une nouvelle étape dans le rapprochement de la Syrie d'Ahmed al-Shara avec la communauté internationale.
Merci beaucoup Pierre-Olivier, vous signez ce matin notre dossier de la rédaction.
Et direction Nice. À présent dans le sud de la France, Nice qui se prépare pour la conférence des Nations Unies sur l'océan.
La troisième du nom qui se tiendra sur la Côte d'Azur à partir de lundi. Et en préambule, plus de 2000 scientifiques sont réunis en congrès baptisé One Ocean Science. Et ils ont publié un manifeste de recommandations pour mieux protéger ce bien commun essentiel pour soutenir la vie et la prospérité sur Terre. Nice, on le retrouve en direct. Pauline Glaise du service environnement de RFI. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Des recommandations qui seront soumises aux dirigeants mondiaux ce dimanche et qui se structurent autour d'une dizaine de thèmes.
Oui, décarboner le transport maritime, partager les richesses issues des ressources génétiques marines, éliminer certaines subventions, celles qui favorisent la surpêche. Voilà quelques-unes des recommandations. Mais le premier thème cité par les deux coprésidents du Congrès, dont François Houllier, président de l'IFREMER, c'est le climat.
Si on veut qu'il n'y ait pas trop de vagues de chaleur marine, si on veut pas qu'il y ait une mortalité massive des coraux, il faut respecter l'accord de Paris, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Et même sortir progressivement des combustibles fossiles. Au sujet de la biodiversité, les scientifiques encouragent les pays à ratifier le traité de la haute mer.
Et c'est très important qu'il soit ratifié, à la fois pour les dispositions qui sont dans le traité, mais aussi parce que le jour où il existera, alors il y aura une COP qui amènera les États à s'engager plus fortement qu'aujourd'hui pour sa protection.
Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche au CNRS, insiste aussi pour une accélération de la mise en œuvre de l'objectif de protection des océans, un objectif, je vous le rappelle, de 30% d'ici 2030.
Parmi ces 30%, 10% en protection forte. Et là, il y a un énorme travail à faire. Par exemple, en Méditerranée, c'est 0,6% de la Méditerranée qui est protégée de façon forte, ce qui est excessivement insuffisant.
Protéger les océans, cela passe aussi par la lutte contre la pollution plastique. Les scientifiques recommandent d'en réduire la production, un point de tension dont les négociations internationales encourent à ce sujet.
Merci beaucoup, Pauline Glaise, en direct de Nice sur RFI.
Et on termine par du foot, une remontada et patatras pour les Bleus.
Menée 4-0 puis 5-1 par l'Espagne de la Mini Yanmal à Stuttgart en demi-finale de la Ligue des Nations. L'entrée de Ryan Cherki a redonné espoir aux Bleus. Ils ont inscrit 3 buts en 10 minutes, dont une volée somptueuse du meneur lyonnais. Mais les Français s'inclinent finalement 5-4, l'Espagne est décidément injouable, Antoine Grenier.
La marche royale, si ce n'était pas déjà le nom de l'hymne espagnol, la première heure face à la France s'appellerait comme ça. Une démonstration de la Roja, emmenée par un Lamine Yamal niveau ballon d'or, 2-0 après 25 minutes, 4-0 avant la 60e, des bleus pas à la hauteur, reconnaissait Lucas Hernandez, le défenseur tricolore.
Quand tu commences un match comme ça, tu cherches la victoire. Après, c'est vrai que quand tu as des trous comme ça, face à des nations comme ça, un gros trou en premier temps où tu t'encaisses deux buts, et en deuxième temps, un autre trou de 10-12 minutes où tu encaisses encore trois buts, c'est compliqué de revenir au score.
Une marche royale interrompue par un joueur du Real. Kylian Mbappé sonne la révolte en transformant son pénalty avant que Yamal ne creuse à nouveau l'écart. Ryan Cherki, Daniel Bibiane contre son camp, puis Randal Kolo Muani ont ensuite entretenu l'espoir et relevé les têtes françaises, estime Adrien Rabiot.
On a continué à faire ce qu'on faisait aussi avec le ballon offensivement, ce qui n'avait pas forcément été concrétisé en première période. On l'a fait en seconde période, on a continué comme ça, ça a marché. On a mis des buts, c'était un match ouvert. Frustrant parce que d'en mettre 4 à l'Espagne de cette manière-là et en prendre 5, c'est compliqué à digérer.
5-4, score final. Une élimination qui ramène les Bleus à l'année 1969, dernière fois qu'ils avaient encaissé 5 buts. Antoine Grenier, Stuttgart, RFI.
Et ça ne nous rajeunit pas, l'Espagne qui affrontera l'Allemagne en finale ce dimanche de la Ligue des Nations. Au point de pénalty, je vous laisse avec Julien Coquel-Rohem.
Merci Martin Guez, très bonne journée à vous. RFI Matin, ça continue avec le journal, avec la revue de presse, pardon. Le tour de la presse internationale avec vous, Paul Lonsin-Spinelli, et la complicité affichée entre Donald Trump et Elon Musk n'est plus qu'un lointain souvenir.
Oui, le président américain et son désormais ex-allié, chargé un temps de tailler à la tronçonneuse dans les dépenses publiques, se sont violemment écharpés hier. Donald Trump traite Musk de fou, il se dit déçu des commentaires acerbes du patron de Tesla et X quelques jours plus tôt sur un projet de loi budgétaire actuellement débattu au Congrès. Sans moi, Trump aurait perdu l'élection présidentielle en 2024, grince Elon Musk dans sa réponse. Quelle ingratitude.
Et ce n'est qu'un extrait des messages postés par réseau interposé.
Un choc des titans mesquins, lyriques, enfantins, désordonnés, lisque le New York Times sur des sujets importants et insignifiants, note le Guardian. En France, le Figaro ose même comparer la joute à une lutte digne de deux héros de Marvel avec leur super pouvoir, presque aussi célèbre que lui, nettement plus riche et disposant, avec son réseau social X, d'un porte-voix médiatique capable de rivaliser avec celui dont dispose le président des États-Unis. Musk est presque aussi vindicatif et rancunier que Trump. Celui-ci, écrit le Figaro, voit se retourner contre lui ses propres méthodes, le tweet vengeur et l'insinuation fielleuse avec quelques émoticônes en plus.
Pourtant, il y a exactement une semaine, tout allait bien.
C'est ce que rappelle Die Welt en Allemagne. C'était le dernier jour du milliardaire de la tech en tant qu'assistant spécial du gouvernement et Trump voulait lui faire ses adieux lors d'une conférence de presse spécialement organisé pour lui. Le Washington Post analyse pendant des mois la question de savoir combien de temps un duo entre deux hommes habitués à jouer en solo pouvait rester en suspens. Les échanges houleux de jeudi ont apporté une réponse définitive. Dommage que nous n'ayons pas organisé de Paris en janvier, sourit le Wall Street Journal, référence à l'investiture de Donald Trump. Et comme ces types ne savent que faire monter les enchères, ajoute le journal économique, l'homme le plus riche du monde a lancé l'idée d'un nouveau parti pour destituer les Républicains. Le locataire de la Maison Blanche, vous vous en doutez, a rétorqué et brandit une menace majeure, la suspension des crédits gouvernementaux dont dépend l'empire commercial de Musk, selon le Washington Post, le quotidien de la capitale américaine qui avance un chiffre de 38 milliards de dollars de fonds publics reçus par les entreprises de Musk. Donald Trump ironise, le voilà, le moyen le plus simple d'économiser dans notre budget. Des pics et noms d'oiseaux qui ont eu des conséquences notables puisque le titre de l'action Tesla a chuté de près de 15% hier. En bourse.
Le président américain et son homologue chinois qui ont décroché leur téléphone pour sortir de l'impasse hier.
Ah, c'est ce qu'écrit le South China Morning Post après cet entretien téléphonique entre Donald Trump et Xi Jinping pour tenter d'apaiser les tensions entre les deux pays liées aux droits de douane. La première prise de contact par téléphone depuis le déclenchement de la guerre commerciale début avril, souligne d'ailleurs le China Daily, dans ce qui peut être interprété comme une main tendue. Selon le quotidien espagnol El País, le dirigeant chinois a proposé à Donald Trump de se rendre en Chine. Invitation acceptée et retournée par le républicain au numéro 1 de l'État chinois.
Les États-Unis qui sanctionnent également 4 juges de la Cour pénale internationale.
Des magistrats qui estiment qu'il y a des motifs raisonnables à soupçonner le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Actualité qui entre en résonance avec cette tribune de plusieurs historiens publiée dans Le Monde ce matin. Le silence sur Gaza met à nu de façon dramatique un point aveugle de nos cultures mémorielles, écrit les chercheurs, qui précisent que pourtant les sociétés européennes sont éduquées à la prévention des crimes de masse, en particulier par la mémoire de la Shoah. Les dirigeants européens ont une responsabilité historique, alors que le piège de la mémoire s'est refermé dans les décombres et sur les corps déchiquetés de Gaza. Fin de citation.
Merci Paul Lonsin-Spinelli. Elle a ému, choqué, touché, voire indigné des millions de personnes au début du printemps. La mini-série Netflix Adolescence, produite au Royaume-Uni, l'histoire du meurtre d'une jeune fille par l'un de ses camarades de classe, radicalisée sur Internet par l'idéologie masculiniste et incel, l'idée que les hommes n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la violence pour parvenir à des relations avec les femmes. Rarement une fiction télé avait eu un tel impact dans la société. Au Royaume-Uni, le gouvernement a même décidé de diffuser diffuser la série dans les écoles à des fins éducatives. Mais le programme a aussi permis de lancer un vaste débat sur la santé mentale des garçons et des jeunes hommes. Et à Londres, Emeline vint rencontrer ceux qui essaient de faire changer les choses. Reportage.
Le regard un peu fuyant, les bras tatoués du prénom de ses deux filles, Ben, à 26 ans. Après une enfance difficile, entre un père alcoolique et décrochage scolaire, il se crée une idée très précise du type d'homme qu'il veut incarner.
Un homme traditionnel qui protège, qui ramène l'argent à la maison, s'assure que sa famille a un toit et de quoi manger. Pour moi, c'est ça, être un homme. C'est beaucoup de pression, mais c'est mon choix. Mais je crois quand même que la société a une responsabilité majeure dans ce qu'on attend d'un homme.
Et parmi ces attentes, il y en a une qui le touche particulièrement, l'impression de ne pas pouvoir exprimer ses émotions en tant qu'homme.
Ma manière de les gérer, c'était de m'auto-mutiler. Ça n'est pas pour rien que le taux de suicide chez les hommes est si élevé. Nous n'avons personne à qui parler. Pour les femmes en général, vous prenez votre téléphone et vous allez prendre un thé avec des amis. Pour un homme, si j'appelle un pote pour discuter, il se moque de moi.
Après un passage par les drogues et la prison, Ben devient chef cuisinier. Il intègre un groupe de parole pour hommes. Dans ce groupe, son mentor connaît bien le phénomène. Des émotions refoulées, un sentiment d'injustice qui conduisent à la violence. Parfois contre soi-même, comme pour Ben, mais parfois contre les femmes, surtout depuis MeToo. Chris Hemmings, ex-journaliste devenu thérapeute, intervient dans les établissements scolaires pour lutter contre cette violence.
Ces 10 dernières années, beaucoup a été fait pour aider les femmes. Mais les jeunes hommes voient toujours le taux de suicide, le taux de sans-abrisme, d'alcoolisme, et ils se sentent lésés. Ce qu'ils ressentent, c'est une société qui s'occupe des femmes et des filles et qui se fiche d'eux. Je leur dis, ok, mais les femmes, elles se sont battues pour tout ça. À nous de nous battre.
Mais ce genre d'initiative dans les établissements scolaires reste rare. James McCann, cofondateur d'une ONG baptisée Feminist Men, déplore l'espace laissé aux influenceurs misogynes sur les réseaux sociaux.
Certains hommes se sentent seuls, isolés, se demandent comment naviguer dans un monde qui a tellement changé et qui fournit une information accessible. Malheureusement, ce sont ces individus misogynes qui font des femmes un bouc émissaire. Il est là le problème.
Dans son appartement du sud de l'Angleterre, le jeune Ben fixe la mer par la fenêtre.
J'aurais aimé qu'on me tende la main plus tôt. Je pense que je n'aurais pas eu à traverser tout ce que j'ai traversé. Et l'école a un vrai rôle à jouer là-dedans.
Parmi les solutions évoquées par les associations, plus d'investissements pour la santé mentale des hommes, qui représentent encore les trois quarts des suicides, et plus de modération sur les réseaux sociaux, voire des restrictions d'accès pour les plus jeunes. Emeline Vint, de retour de Brighton, RFI.
Notre reportage international au Royaume-Uni à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio. C'est une demande qui explose à l'échelle mondiale. Les ventes de médicaments pour la perte de poids montent en flèche depuis quelques mois. On l'a vu notamment avec les célèbres traitements Ozempic et Wegovy et les résultats du laboratoire danois qui les produit. Novo Nordisk, qui estime soigner aujourd'hui plus de 45 millions de personnes à travers le monde. C'est dans ce contexte que la Chine s'apprête à approuver son premier traitement de l'obésité à double cible développé au niveau national. Le médicament appelé Mazduty attend son autorisation de mise sur le marché. Bonjour Cléa Broadhurst.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Qu'est-ce que le Mazdutide et pourquoi en parle-t-on en ce moment ?
Alors, c'est le premier médicament contre l'obésité développé en Chine, combinant, vous le disiez, deux cibles hormonales, une pour réguler l'appétit et l'autre pour améliorer le métabolisme. Il vient de terminer avec succès un essai clinique de phase 3 en Chine, dont les résultats ont été publiés au mois de mai, et il attend, vous le disiez, une autorisation de mise sur le marché potentiellement d'ici la fin de l'année. Et les premiers résultats sont très prometteurs. Certains patients ont perdu plus de 15% de leur poids corporel. Cela place le Mazdutide au même niveau que les leaders mondiaux du secteur, ce qui est un véritable tournant pour un traitement développé localement.
Et pourquoi est-ce important pour la Chine ?
Parce que l'obésité progresse rapidement, surtout dans les zones urbaines. Alors avoir un traitement national permettrait à la Chine de réduire sa dépendance aux médicaments importés, d'élargir l'accès aux soins pour sa population et de démontrer sa capacité aussi à innover dans le domaine des biotechnologies. Et les projections indiquent que d'ici 2050, la moitié de la population adulte mondiale pourrait être en surpoids ou obèse. Et la Chine est en première ligne. On parle de 630 millions de Chinois potentiellement concernés, d'où l'importance stratégique d'un médicament local.
Cléa, quelles pourraient être les conséquences à l'échelle mondiale ?
Eh bien, l'arrivée d'un nouvel acteur pourrait redistribuer les cartes. Elle pourrait soulager la pression sur les chaînes d'approvisionnement, faire baisser les prix sur un marché qui est très tendu et offrir une alternative aux pays émergents qui peinent à accéder aux traitements actuels. Et ce médicament, eh bien, il pourrait être exporté ou utilisé en dehors de la Chine. Parce que si les données de sécurité à long terme sont solides et si le processus réglementaire avance à l'international, eh bien, le Mas du Tide pourrait devenir un acteur à part entière dans la lutte mondiale contre l'obésité, en particulier là où les besoins sont énormes et les budgets contraints.
Mais finalement, en dehors de la Chine, est-ce que c'est vraiment pertinent ?
Alors oui, clairement, puisque l'obésité est une crise de santé publique mondiale et les traitements efficaces restent rares et coûteux. Alors, si un acteur comme la Chine entre sur le marché avec un produit efficace et moins cher, eh bien, cela peut changer la donne. Et cela pourrait aussi accélérer l'innovation, rendre les traitements plus accessibles et bousculer un marché jusqu'ici dominé par quelques grandes entreprises occidentales. Bref, l'arrivée de ce médicament, si elle est confirmée, pourrait bien marquer un tournant dans la lutte mondiale contre l'obésité.
Cléa Broadhurst, merci beaucoup et bonne journée chez vous à Pékin, où il est 15h25. Et dans les dessous de l'Infox, cette semaine, cap sur la Russie, frappée sur son sol par une vaste attaque de drones ukrainiens dimanche dernier, auquel elle riposte ce matin. Avec son opération clandestine baptisée Toile d'araignée, Kiev a détruit au moins une quinzaine d'appareils, dont plusieurs bombardiers stratégiques. Un raid historique autour duquel la désinformation fleurit sur les réseaux sociaux. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Côté ukrainien, certains comptes détournent des images pour surévaluer les dégâts. Et côté russe, la désinformation sert à sauver la face et à faire monter la tension.
Oui, quelques heures seulement après l'annonce du raid ukrainien sur des bases russes, des comptes de propagande pro-russe ont inondé les réseaux sociaux avec un message plutôt inquiétant. La Russie aurait placé ses forces nucléaires en état d'alerte maximale. Des utilisateurs parlent à tort de l'ouverture des silos contenant des missiles stratégiques et du déplacement d'unités mobiles. Un niveau de préparation, je cite, jamais vu depuis la crise des missiles de Cuba.
Alors sur quoi s'appuie concrètement ce narratif ?
Eh bien tout repose sur des prétendus témoignages non sourcés et sur une vidéo de 49 secondes vue plus de 10 millions de fois cette semaine. Filmée de nuit, on y voit une colonne de lanceurs Yars entourée de véhicules de police sur une autoroute civile. Ces systèmes de missiles balistiques intercontinentaux mobiles sont capables de lancer plusieurs têtes nucléaires avec une portée estimée à 10 000 km. Ce qui fait dire à certains que le raid ukrainien pourrait faire basculer le monde.
Sauf que cette vidéo n'a rien à voir avec l'attaque de drones ukrainiens sur des bases russes.
Eh bien non, grâce à une recherche par image inversée, nous avons retrouvé d'où provient exactement cette vidéo. Elle a été diffusée par le ministère russe de la Défense sur Telegram le 27 février 2024. La légende parle de l'arrivée des lanceurs Yars à Alabino, près de Moscou, dans le cadre de la préparation du traditionnel défilé militaire du 9 mai pour l'édition 2024. Aucun rapport donc avec le raid ukrainien de dimanche dernier.
Et cette vidéo est loin d'être la seule à être sortie de son contexte.
Oui, ce type de manipulation se compte par dizaines. Certains comptes pro-ukrainiens ont par exemple diffusé une vidéo censée montrer la destruction d'une usine de composants de missiles près de Moscou. On y voit bien une vaste explosion. Sauf que ces images, vues plusieurs millions de fois, sont anciennes. Elles datent en réalité de 2023 et montrent un navire de guerre russe frappé par des missiles de croisière ukrainiens lors d'une attaque nocturne en Crimée.
Il faut dire, Grégory, que le contexte actuel est particulièrement propice à la désinformation.
Oui, comme à chaque grande opération militaire, le brouillard de la guerre facilite la diffusion d'images sorties de leur contexte ou générées par intelligence artificielle. À cela s'ajoutent des modes opératoires toujours plus complexes. Plusieurs fausses images satellites difficilement détectables ont par exemple fait leur apparition en ligne. Une fois devenu viral, ces infox alimentent les tensions, perturbent les perceptions du conflit et invisibilisent les vraies images de la guerre.
Grégory Genevrier pour les dessous de l'infox. Merci beaucoup. Bientôt 7h30 en temps universel. Et sur la radio du monde, c'est un nouveau point sur l'info africaine qui vous attend dans une minute. À tout de suite.
À l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Marjorie Bertin.
C'est le retour du gendarme de Abobo. La comédie ivoirienne à succès revient en salle le 11 juin avec une nouvelle mission pour le gendarme Goku et le lieutenant Leblanc. Nous en parlons en avant-première avec son réalisateur Antoine Vassil et son acteur vedette, l'humoriste Michel Gohou.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Queen Rima, lauréate du prix découverte RFI 2025, sera en concert à Paris le 26 juin. La reine du dancehall Made in Guinée vous attend pour un show exceptionnel au New Morning. Invitation gratuite à retirer sur le site du New Morning, sur Wiz Event et sur rfi.fr/musique. Le prix découverte RFI en partenariat avec l'Institut français.